Alors, mon thème ce matin, vous savez, c'est le combat. Alors, vous allez me dire, ouais, j'entends quelqu'un qui dit, oui, c'est pas nouveau, on l'a déjà vu, on connaît. J'espère pouvoir vous l'amener d'une façon différente. Je combats, tu combats, et nous combattons. Quel est votre combat? Je ne sais pas quel est votre combat. Chacun sait à l'intérieur de soi quel est son combat. Est-ce que c'est un combat physique? Est-ce que c'est un combat spirituel? Le combat, c'est l'exploration des luttes intérieures et de la résilience par la grâce de Dieu, la capacité de pouvoir surmonter ce combat par la grâce de Dieu. Les combats sont souvent plus spirituels qu'autre chose, plus que physiques. Je vous ai déjà partagé une fois que j'avais eu plusieurs combats où je sentais que je tombais dans une dépression et que le Saint-Esprit m'avait révélé ce qui se passait et j'avais réussi à le surmonter. Et maintenant, quand je vois que ça redémarre, que l'ennemi cherche à m'atteindre par cette façon-là, je reconnais et j'arrive à combattre cette forme de dépression qui s'installe. Je voudrais vous partager un autre combat aussi que j'ai vécu, qui est aussi spirituel. Il y a quelque temps, enfin, même je dirais plusieurs mois, en plein milieu de la nuit, alors que je suis en pleine santé, en bonne santé, j'ai eu une violente douleur au niveau de l'épaule, mais tellement violente que ça m'a plaqué l'épaule contre le lit, contre le matelas, sans que je puisse même pas la décoller d'un millimètre. Ça m'a bien sûr réveillée et je me suis dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai essayé de soulever, impossible, j'avais beau faire quoi que ce soit, je ne pouvais pas décoller mon épaule de ce millimètre de mon matelas. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, c'est spirituel. L'ennemi cherchait à me clouer sur mon matelas et à m'affaiblir. J'ai pris autorité sur cette attaque. Et la douleur a instantanément disparu et j'ai pu soulever. Et après, on réfléchit, on se dit, mais c'est quand même fou ce qui se passe, ce qui peut se passer dans notre corps et qui peut nous affaiblir, voire parfois nous détruire. Alors, nous savons que nous sommes tous, nous sommes un esprit. On est un esprit. On a une âme, c'est le centre de nos émotions, notre intelligence. Et nous sommes dans un corps charnel. Tout autour de nous, il y a une multitude de combats à mener, qui ne sont pas toujours charnels, comme je viens de le dire, mais qui sont souvent beaucoup plus spirituels. Et 2 Corinthiens 10, 3 nous le dit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. L'armure des chrétiens est là pour renverser ces raisonnements, ces forteresses. Quelles sont ces forteresses? Alors, les forteresses, il y a 2 définitions. Lieu de repli, refuge, abri. Ça peut être au sommet d'une montagne. Mais il y a une autre définition qui est intéressante. Toute chose sur laquelle on s'appuie est une forteresse, un faux raisonnement, une pensée sur laquelle on s'appuie et qui se dresse contre Dieu. Un exemple, si je crois à un mensonge de l'ennemi, du style ce que j'ai vécu dans mon enfance, on me disait toujours, t'es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu es une bonne à rien, tu n'y arrives pas. Tu comprends rien. Si j'ai cru à ce mensonge, et ça m'a complètement découragée dans mes études. Et ça s'élève contre la parole de Dieu qui dit l'inverse, qui dit que je suis bénie, je suis pardonnée, sanctifiée, que je suis une créature merveilleuse. Vous trouvez pas? Tout comme vous, vous êtes des créatures merveilleuses. Eh bien, ce mensonge, il devient une forteresse en moi. Je m'appuie sur ce que l'on me dit. Et le mot forteresse en grec, il peut être traduit par 2 choses. détenir, et le deuxième, partage de propriété. Partage de propriété. Partage de propriété, car si l'ennemi accède à mes pensées, il accède aussi à mes émotions, et je lui ouvre une porte. Je ne vais pas vous demander d'acquiescer ce que je dis, mais je pense que ça peut être parlant. Proverbe 23, 7 dit « Il est tel les pensées de son âme ». C'est-à-dire, je pense négatif, je suis négatif. Je pense positif, je suis positif. Il est tel les pensées de son âme. Pour combattre cela, parce que c'est le sujet, le combat, il faut aller à la source. Si vous avez une rivière qui coule, vous mettez au milieu de la rivière, vous tendez vos bras pour arrêter l'eau. Je doute fort que ça fasse quelque chose. Ou alors appelez-moi parce que je veux le voir et ça, ce sera un miracle de Dieu. Mais par contre, si vous allez à la source, c'est-à-dire au début de cette petite rivière, là où ça coule, l'embouchement, et que vous mettez des gros cailloux, là, vous avez une chance de pouvoir stopper l'écoulement. Souvent, on essaie de changer les choses par nos propres moyens, en disant « je vais changer ». Et on s'y prend de la mauvaise manière. Ce n'est pas par nos actions que nous faut changer, mais c'est par la source. Ce en quoi tu crois. En quoi tu crois. Si tu crois en la vérité de Dieu, je crois qu'on en a pas mal parlé, Luc en a parlé, Quentin en a parlé. Si tu crois en la vérité de Dieu, de ce qui est écrit dans la Bible, et que tu en as la révélation, alors tu peux inverser la tendance et détruire les forteresses qui se sont installées dans ta tête, dans ta vie ou dans ta théologie. Un exemple de partage de propriété qui va peut-être bien vous parler. Genèse 3, versets 1 à 6. Satan va tenter Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne deviez pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden ?» Il remet en question la parole de Dieu. Il s'élève contre la parole de Dieu. Ève va répondre une vérité. Elle va lui dire « Oui, Dieu a dit qu'il faut manger tout sauf de l'arbre du bien et du mal parce que sinon nous allons mourir. » Mais Satan va créer un doute dans son cœur et dans ses pensées. Il va dire à Ève, « Mais non, tu ne mourras pas. C'est pas ça. T'as pas compris. » Et Ève va croire en ce mensonge. Elle va s'appuyer sur ce mensonge et une faille dans ses pensées va arriver. Et c'est comme ça que le péché arrive sur terre. Car elle a ouvert une porte à Satan. Elle a fait un partage de propriété. Si l'ennemi peut accéder à nos pensées parce qu'on le lui permet, il peut accéder à nos émotions. Et là aussi, je vous le prouve. Ève a toujours vu l'arbre au milieu du jardin d'Éden. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle a toujours vu, il était là. Elle le sait. Mais pour la première fois, elle va voir que l'arbre est beau et agréable à manger. Dans la Bible, il est dit « Ève vit que l'arbre est beau et agréable à manger. » Ça, ce sont des émotions de notre âme. Elle n'avait jamais eu d'émotion jusqu'avant. Et là, elle a une émotion qui va engendrer une action. Elle prend la pomme, elle la mange, elle la donne à Adam. Juste un instant pour prier. « Oh Dieu, sonde-moi pour savoir si je crois à un mensonge dans ma vie. Oh Dieu, sonde-moi pour savoir si je crois à un mensonge dans ma vie. » Oui, les forteresses n'en sont pas des châteaux tout en haut d'une montagne, mais les faux raisonnements, les fausses pensées qui s'installent dans nos têtes, et c'est le plus gros combat que nous avons à mener sur cette vie terrestre. Bien sûr, il y a les combats physiques. Ça, je ne dénie pas que ce sont des combats qui sont difficiles à mener, des combats de maladie. Mais les plus gros combats sont les combats des pensées, parce que c'est quotidien. C'est quotidien. Satan a été vaincu. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'a ni pouvoir, ni autorité, ni puissance sur la terre. L'autorité et la puissance lui ont été données par Adam lors du péché qu'on vient de voir, Mais il lui a été retiré par le deuxième Adam, Jésus, par le sacrifice sur la croix. Bref, Satan n'a plus aucune autorité. Et si on croit l'inverse, c'est un faux raisonnement. C'est une forteresse. Car la victoire, Jésus l'a remportée. Il a tout accompli. Alors comment peut-il agir? Puisqu'il n'a plus autorité, puis qu'on voit très bien qu'il y a quand même des choses qui arrivent sur terre et qui sont mauvaises. Simplement en agissant sur les pensées. Il peut agir sur les pensées d'un Poutine pour le provoquer à la guerre. Il peut agir sur les pensées comme en Israël, ce qu'on voit, pour le pousser à détruire. Le mal arrive. Vous savez que les pensées sont destructrices. Elles ont un pouvoir. Les pensées, notre esprit a un pouvoir phénoménal sur notre corps. Encore un exemple que je voudrais vous donner. Toujours à l'école, j'avais un professeur qui était très raciste. Et je suis d'origine italienne et mon papa était yougoslave et il n'aimait pas les étrangers. Systématiquement, quand j'arrivais à l'école, il me disait « tu as les mains sales ». Il me faisait mettre mes mains comme ça, il me tapait sur les mains avec la règle pour me dire « tu as les mains sales ». Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que j'arrivais les mains propres. Et en fait, j'ai su il n'y a pas tellement longtemps que ça voulait dire qu'il n'aimait pas les étrangers et que j'étais sale. Et forcément, quand vous arrivez tous les matins à l'école, qu'on vous dit que vous avez les mains sales, qu'on vous punit ou qu'on vous tape sur les doigts avec une règle, qu'est-ce que vous finissez par penser? Je suis sale, je ne mérite pas. Et ça ne vous fait pas aimer l'école. Dieu nous a donné des armes pour combattre ces faux raisonnements, les mauvaises pensées, les faux enseignements, ce que nous avons entendu de génération en génération par nos pères, par nos grands-pères, mais aussi peut-être par l'Église qui parfois a une mauvaise compréhension de la Bible. Ça peut arriver, car nul ne connaît entièrement la vérité. Nul. Nul ne connaît entièrement la vérité. C'est pourquoi ces armes sont spirituelles, sauf une. Éphésiens 6, 13 nous le dit. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez ceint à vos reins de la vérité, en ayant revêtu la cuirasse de la justice et en ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Savez-vous, donc comme je vous disais, que parmi ces armes, laquelle est la plus puissante? Allez, question. L'épée de l'Esprit. Et tout le monde est d'accord, l'épée de l'Esprit? Eh bien non, c'est la ceinture de vérité. Pourquoi? Parce que la ceinture de vérité, c'est la parole écrite, la Bible. Paul la cite en premier d'ailleurs dans ce verset d'Éphésiens. C'est pourquoi prenez l'armure complète afin dans les mauvais jours vous puissiez résister. Ayez ceint la ceinture de vérité. Et Jean dira, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est parlant, la vérité nous rendra libres. Alors il faut avoir la ceinture de vérité pour avoir la liberté. Alors, comme Luc, il a raison, hein, en quelque sorte, vous allez me dire que c'est l'épée de l'esprit qui est la parole la plus puissante. Mais en fait, il y a deux façons de dire parole dans la Bible. Il y a logos et il y a rhéma. Logos, c'est la parole écrite, c'est la Bible. Et rhéma, c'est la parole prononcée, révélée, en accord avec la Bible, bien sûr, pour le moment présent. En quelque sorte, vous lisez votre Bible et d'un seul coup, un texte vous parle. Il sort de la Bible et il répond exactement à un besoin présent, à la question que vous vouliez poser à Dieu et vous n'aviez pas de réponse. Vous lisez votre Bible et d'un coup, waouh, Dieu me répond. C'est cette réponse-là que j'attendais. C'est ça un rhéma. C'est la parole révélée. Si vous avez une question, lisez la Bible et la réponse va vous sauter aux yeux. C'est pour cela que souvent on dit, dans la Bible, il est dit que Dieu vous parle par sa parole écrite et révélée. Pour les armes, Paul reprend sa référence sur le soldat romain. On va faire un peu d'histoire. Le soldat romain a une cuirasse. Elle est parfois, en fonction des grades, en cuir ou en métal. Elle est en deux morceaux, devant, derrière. Et elle tient comment ? Par la ceinture de vérité. La cuirasse ne peut pas tenir s'il n'y a pas la ceinture. Paul veut nous faire comprendre que la cuirasse de la justice de Dieu ne peut pas tenir si nous n'avons pas la ceinture de la vérité, la Bible, écrite et révélée. La justice de Dieu ne s'obtient que si l'on dit la vérité de Dieu. La ceinture permet aussi d'appuyer le bouclier. Il y a un appui là pour le bouclier qui est très lourd. Et puis d'attacher sur l'autre côté le fourreau de l'épée. Voilà pourquoi la ceinture est l'arme la plus puissante et la plus importante dans l'armure du soldat romain. Car sans la ceinture, il ne peut pas poser son bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Il ne peut pas se protéger. Et il ne peut pas mettre son épée dans son fourreau, la parole révélée, qui sera là pour juger les émotions et les pensées du cœur, l'épée à double tranchant. Hébreux 4, 10 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge sentiments et pensées du cœur. » Sans la Bible étudiée, la parole écrite, pas de foi, ni épée, parole révélée, plus tranchante pour juger. Paul fait un parallèle avec cette armure. Si tu veux combattre les mensonges de l'ennemi qui veut te faire croire que Satan est plus puissant dans ta vie, et si tu n'es pas ceinturé par la parole écrite de Dieu, ton armure va vite se défaire. Ta foi n'aura pas de puissance. Tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Et on le voit en ce moment. Dieu est en train de faire le tri dans son église et beaucoup de chrétiens quittent les églises. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appuient sur une foi qui n'est pas solide. Parce qu'ils voient que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui vont mal et dans leur tête. Et vous l'entendez ça. Mais Dieu n'existe pas puisqu'il y a tout ça qui se passe. Tout ça est un mensonge. La cuirasse, la justice de Dieu ne pourra pas t'appuyer. La cuirasse du soldat était là pour protéger ses organes vitaux, le cœur, les poumons. La parole écrite et révélée est là pour protéger ton cœur et tes poumons, le souffle du Saint-Esprit. Plus que tout, c'est hyper important. Osée 4, 6 va dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il résume l'importance de lire, méditer et réfléchir. Hier, j'ai appris quelque chose. Mon mari m'a fait écouter une conférence de Stephen Mackenzie. Si vous voulez l'écouter, vous adresserez à lui. C'est très intéressant. J'ai vraiment appris quelque chose. J'ai vraiment appris que Dieu a fait le septième jour, non pas pour que... on s'active ou qu'on se repose ou quoi que ce soit, mais tout simplement pour réfléchir à sa création que l'homme est en train de détruire et à réfléchir que faire pour plaire à Dieu. Uniquement ça. Le septième jour, nous on dit qu'il commence le dimanche, mais en fait il commence le vendredi soir, le jour du sabbat. Et là, pour que l'homme réfléchisse comment plaire à Dieu, comment protéger sa création. Qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné ? Même si tu as le casque du salut, on a parlé du salut, de la compassion à avoir pour les gens qui ont besoin de ce salut. Même si tu as le casque du salut, ça ne suffira pas. Car il te faut le bouclier de la foi, l'épée la cuirasse. Sinon, ton armure sera trop lourde et tu ne pourras pas la porter. Le rhéma de Dieu, la parole révélée par l'Esprit, c'est l'épée. Et la parole révélée s'appuie toujours sur le logos, la parole écrite. Ce qui veut dire que tu as besoin de connaître ta Bible, tu as besoin d'en prendre soin de cette parole. Alors le fourreau de l'épée trouvera son appui et rien ne pourra plus t'être enlevé. Si tu désires recevoir une parole de Dieu tranchante pour ta vie, une réponse à une question, pour un combat spirituel que tu mènes, quel qu'il soit, il faut comprendre qu'il ne pourra venir que si tu as la ceinture de vérité. Frères et sœurs, il faut avoir un bon équilibre. La parole de l'esprit, si tu es plus dans la parole et pas dans l'esprit, tu es déséquilibré. L'un amène le mysticisme, l'autre amène la religiosité. Jésus a combattu le diable dans le désert pendant 40 jours. Jésus a combattu parce qu'il connaissait la parole écrite, il l'avait dans son cœur, mais aussi parce qu'il a jeûné pendant 40 jours pour combattre sa chair. Frères et sœurs, soyons des chrétiens équilibrés. Et si vous le voulez, si vous croyez en tout ça, alors vous serez libres des mensonges de l'ennemi. Et si vous le désirez, vous pouvez prier cette prière. Père, plus que jamais, je veux aimer ta parole, la chérir, l'étudier, afin de te connaître davantage. Je veux que ta parole vienne ceinturer ma vie, qu'elle devienne le socle de ma vie, l'ancre de mon âme. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai négligé ta parole. Je ne veux plus l'ignorer, car elle est l'arme la plus puissante. Ta parole est vraie, vivante, efficace, et tes promesses sont oui et amen.